sur les épaules de Darwin, tous les samedis sur France Inter, à partir de 11h. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de voir en nous, au plus profond de nous. Tenter de voir au plus profond des autres. Il n'y a rien de plus privé, de plus secret, de plus incommunicable que cette flamme intérieure qui tremble en nous en permanence. Rien de plus privé, de plus secret, de plus incommunicable que les représentations mentales qui émergent en nous. Ce que nous ressentons, vivons, voyons, rêvons, imaginons, avons l'impulsion ou l'intention de faire, ce dont nous nous souvenons, ce que nous espérons, nos émotions, nos sentiments. Que savons-nous de nous-mêmes? Et si nous en connaissons si peu sur nous-mêmes, pouvons-nous en apprendre plus sur nous, à partir de ce que d'autres voient de nous? Que pouvons-nous apprendre des autres, à partir de ce que nous voyons d'eux? En dehors du langage, en deçà du langage, en l'absence de mots. Ressentir, je vous en ai parlé dans une précédente émission, Einfühlung, littéralement sentir à l'intérieur, ressentir. La connaissance du moi étranger, disait le psychologue allemand Theodor Lips au tout début du XXe siècle, la connaissance du moi de l'autre, la connaissance de son monde intérieur, de l'univers de ses représentations mentales. Einfühlung, empathie, cette étrange capacité que nous avons de vivre en nous et de ressentir les émotions et les intentions de l'autre à partir de ce que nous en percevons. En projetant sur l'autre nos propres émotions et nos propres intentions, en lui attribuant, dit Lips, ce que nous mimons en nous de ce que nous avons perçu. Par l'intermédiaire des activités de nos réseaux miroirs, que Giacomo Rizzolatti, Vittorio Gallese et leurs collaborateurs ont identifié il y a une quinzaine d'années, d'abord dans le cerveau de primates non humains, les rhésus macaques, puis plus tard dans notre cerveau. L'un des supports biologiques de l'empathie, de l'Einfühlung. Des réseaux de cellules nerveuses, les réseaux miroirs, qui s'activent en nous à la fois lorsque nous voyons un autre faire un geste et lorsque nous nous préparons à effectuer le même geste, avant même de commencer à l'exécuter, nous permettant ainsi de mimer en nous, de ressentir, de vivre en nous ce dont nous ne percevons chez l'autre que le reflet. Et ces réseaux miroirs qui s'activent dans notre cerveau ne nous permettent pas seulement de mimer en nous les gestes des autres, ils nous permettent aussi de mimer en nous les expressions de leur visage, les modulations de leur voix qui traduisent leurs émotions et leurs intentions, l'étonnement, la peur, l'agressivité, la tristesse, la douleur, la joie, la sérénité, l'espoir. Les réseaux miroirs qui s'activent dans notre cerveau sont l'un des supports biologiques, mais pas le seul, de ce que Lips avait appelé la connaissance du moi étranger, cet accès spontané, immédiat, inconscient et toujours indirect, toujours incertain, à ce que vivent et ressentent les autres. Et nous avons en nous cette fenêtre, presque toujours ouverte, sur les reflets que nous percevons des mondes intérieurs des autres, à travers ce que nous avons appris sur nous-mêmes et sur les autres, à travers nos souvenirs de nous-mêmes et des autres. Je vous disais dans une précédente émission que la plupart des recherches récentes suggèrent que ce que nous appelons l'empathie a plusieurs composantes qui font appel à des mécanismes neurologiques distincts, mais complémentaires. Et ces différentes dimensions de l'empathie sont imbriquées les unes dans les autres, émergent les unes des autres, se fondent les unes dans les autres, comme des matrioshkas, comme des poupées russes. La première composante, largement répandue dans le monde animal, est la capacité à partager les émotions et les intentions des autres à partir de ce qu'exprime leur corps. En particulier de partager, de vivre les états affectifs des autres, ce qu'on appelle la contagion émotionnelle, la résonance émotionnelle. Et ce processus semble être chez nous, pour une très grande part, inconscient. Nous partageons les émotions exprimées par les autres. Nous devenons autres, sans vraiment le savoir, sans vraiment savoir ce qui, soudain, en nous, a provoqué ce changement. Un deuxième niveau d'empathie qui émerge souvent du premier et le dépasse est l'envie d'aider, de soulager, de consoler. C'est le niveau où l'empathie commence à se transformer en sympathie. Mais aider, protéger, porter secours demande souvent plus que simplement partager les émotions et les intentions des autres. Il s'agit alors non plus simplement de se mettre à la place de l'autre, mais de mobiliser en nous les représentations mentales, les intentions et les aptitudes qui nous permettent d'apporter notre aide. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé, c'est ce que fait une maman chimpanzé quand son enfant l'appelle en gémissant parce qu'il est monté dans un arbre dont il ne peut plus redescendre et qu'il ne peut pas atteindre les arbres voisins. Alors, la mère se suspend entre cet arbre et un autre arbre, formant un pont sur lequel l'enfant peut s'engager et gagner l'arbre voisin. La maman chimpanzé ne se met pas simplement à la place de son enfant. Elle trouve le moyen de l'aider d'une manière qu'il ne pourrait lui-même réaliser, tout en le laissant continuer à agir de la façon la plus autonome possible. Cette dimension de l'empathie est celle qui fait le plus appel à nos capacités d'abstraction, de résolution des problèmes, et elle est probablement d'évolution plus récente et moins répandue dans le monde animal que les deux premières. Cette capacité à exprimer et à percevoir les émotions et les intentions de l'autre, à laquelle Darwin attachait une extrême importance et dont il pensait qu'elle avait joué un rôle essentiel dans le monde animal et chez nos ancêtres pré-humains, dans l'émergence et l'évolution des interactions sociales, de la coopération et de l'aide apportée aux plus faibles, cette capacité à laquelle il avait consacré un livre, « L'expression des émotions chez l'homme et chez les animaux ». Et pour Darwin, comme aujourd'hui pour France Deval et pour d'autres encore, les premiers niveaux d'empathie ont émergé et se sont propagés initialement dans les relations mère-enfant, dans les relations parents-enfant, dans toutes les espèces animales où l'apparition et le développement d'une capacité d'attention aux besoins du tout petit enfant incapable de survivre seul a joué un rôle vital dans la propagation des générations. Nous sommes tous les descendants d'une très longue lignée d'ancêtres, dont l'origine plonge loin avant l'émergence de l'espèce humaine. Nous sommes tous les descendants d'une très longue lignée d'ancêtres qui étaient capables de vivre en eux les émotions des tout-petits enfants, la faim, le froid, la peur, la joie, la douleur, et d'y répondre. Et aujourd'hui, longtemps après, la vue d'un bébé ou la vue d'une photo de bébé ou d'une image d'un bébé dans un dessin animé produit le plus souvent sur des personnes adultes et sur des enfants un effet immédiat de tendresse et une envie de protéger. Qu'il s'agisse d'un bébé humain ou d'un bébé animal, un chaton ou un chiot encore pâteau qui vient de naître, ou tous ces bébés animaux imaginaires que les dessins animés de Walt Disney nous ont fait connaître et aimer.
Saute! Tu peux le faire! Saute par-dessus! Fais comme ça! Fais comme papa! Et hop là!
Il y a le petit fan Bambi qui naît dans la forêt et grandit entouré du lapin Pampan qui lui apprend à marcher et à parler, et d'autres enfants de la forêt, la petite mouflette qu'il appelle Fleur, et la jeune biche, Féline.
Hello.
Bambi, vite, les fourrés.
Bambi, veillé de loin par son père, le serre au grand bois imposant. le grand prince de la forêt.
Maman, où es-tu ?
Bambi qui entend un jour un bruit de tonnerre et qui réalise qu'il a perdu brutalement sa mère, tuée par un chasseur.
Viens. Mon fils, viens.
Il y a l'éléphanteau Dumbo, le petit bébé qui ne dit pas un mot.
Regardez-le.
Dumbo que les cigognes apportent à sa mère dans un cirque.
C'est quoi ? Oreilles ! Oh, est-ce qu'elles sont drôles ?
Oh, Seigneur !
Toujours aussi gaffeuse.
Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est parce que j'ai dit la vérité ?
Bien sûr, ça n'est pas méchant.
Et j'ai dit qu'elles étaient drôles et elles sont drôles.
Ça, c'est incontestable.
Au fond, ça nous est bien égal comment il est son Dumbo.
Dumbo ? C'est plutôt Dumbabo !
Dumbabo !
Et qui fait l'objet de moqueries de la part de tous, à cause de ses grandes oreilles qui le handicapent, et dont personne ne peut deviner qu'elles lui permettront un jour de voler. Dumbo, que seule sa mère console et protège, et qui se retrouve seule, quand sa mère est enfermée dans une cage.
Maman, veille, mon petit. Ne crois rien, sèche tes pleurs, viens sur mon cœur, mon tout petit.
Il y a le lionceau Simba, le fils du roi lion, dont la naissance est célébrée par tous les animaux de la savane qui accourent pour le voir. Le petit Simba qui perd son père, le roi Mufasa, tué alors qu'il le sauve d'un piège tendu par Scar, le frère jaloux du roi. Le petit Simba qui s'enfuit seul, au loin, dans le désert. La vue d'un animal, ou d'un dessin d'animal, ou d'une peluche, qui présente ses caractéristiques typiques des nouveau-nés ou des bébés, une grande tête par rapport à la taille du corps, un front haut et bombé, de grands yeux écartés, fait naître en nous la sensation qu'il est adorable, mignon, et nous donne instantanément l'envie de vérifier que le bébé humain ou animal n'est pas seul, sans ses parents, abandonné, en danger. Nous donne instantanément envie de le protéger, de nous en occuper.
Kawaii baby, hi hi, kawaii baby, kawaii baby.
Au Japon, ces images, comme le Pokémon, sont particulièrement populaires et sont nommées kawaii, qu'on traduit habituellement par adorable, mignon. L'adjectif kawaii est dérivé d'une expression ancienne de la langue japonaise, kawahayushi. Kawa signifie visage et hayushi signifie en train de rougir. Kawahayushi signifie donc littéralement visage en train de rougir. Le sens de l'expression kawahayushi dans le Japon ancien, était rougir de honte, ne pas supporter de voir, ressentir de la pitié pour. Mais cette signification a changé, a progressivement évolué. Initialement, il s'agissait d'exprimer la sensation que nous éprouvons devant la détresse de l'autre. Je rougis de honte, je ne supporte pas, je ressens de la pitié devant cette situation. Et cette signification centrée sur nous, sur nos émotions, sur nos sentiments, où l'autre n'est que la cause de ce que nous ressentons, cette signification s'est déplacée dans la langue japonaise ancienne vers l'autre. Elle a alors exprimé l'aide que nous nous sentons obligés de lui apporter. Nos émotions ne sont que le point de départ du mouvement qui nous pousse vers l'autre. L'essentiel dans l'expression kawahayushi, ce n'était plus nous, c'était l'autre. Je ne peux laisser l'autre seul. Je ne peux pas l'abandonner. Je suis responsable de l'autre. Je dois le protéger. La première dimension de l'empathie, la contagion émotionnelle, la résonance émotionnelle qui nous parle de nous, de ce que nous ressentons, s'est déplacée vers les deux autres dimensions de l'empathie, tournées vers l'autre, la sympathie et la recherche d'un moyen d'apporter de l'aide. Mais quel effet ces sensations, ces sentiments qui émergent en nous quand nous voyons ce que les Japonais appellent une image kawaii, une image qui évoque un bébé adorable, attendrissant, mignon? Quel effet ces sensations, ces sentiments ont-ils sur nous? Une série d'études a suggéré que ces images ont tendance à transformer en profondeur notre état émotionnel. Nous focalisons soudain notre attention, nous sourions, nous ressentons un sentiment de joie. Mais cet attendrissement et cette envie d'aider exercent sur nous des effets plus profonds encore.
Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
Te esperei na lua crescer, brincadeira boa sentei, espirrei na tua, gripei, por ficar ao léu resfriei. Você me agradou, me acertou, me miseravou, me aqueceu, me rasgou a roupa e valeu, e jurou conversas de Deus. Aganjo, aganjo, aganjo. Quem sabe a labuta que tá, sabe o trabalho que dá, batalhar o pão e trazer para casa sobreviver. Encontrei na rua a questão, 100% a falta de chão. Vou rezar pra nunca perder essa estrutura que é você. Aganjo, 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 aganjo.
Jean-Claude Amezen sur France Inter.
En 2009, une étude était publiée dans la revue Emotion par trois chercheurs du département de psychologie de l'Université de Virginie aux États-Unis. Son titre était « La vue d'images mignonnes, attendrissantes, induit un comportement plus attentionné ». Les chercheurs avaient demandé à des personnes de jouer à un jeu vidéo pour enfants qui demande une grande attention et une grande dextérité. Le jeu s'intitule « Opération ». Le joueur exerce un rôle qui ressemble à celui d'un docteur, d'un chirurgien. Un rôle qui implique d'aider, de protéger, de soigner. Sur l'écran, il y a une représentation d'un corps humain. Et dans le corps, il y a des morceaux de plastique qu'il faut retirer soigneusement à l'aide de pincettes pour guérir le patient en faisant attention de ne pas toucher les portions saines du corps, les bords des blessures. Les chercheurs avaient demandé à des personnes de jouer, puis ils leur avaient montré soit des photos de chatons et de chiots, soit des photos de chats et de chiens adultes. Puis ils leur avaient demandé de jouer à nouveau. Et les personnes qui avaient vu des photos de bébés chats et de bébés chiens avaient nettement amélioré leur performance, alors que les personnes qui avaient vu des photos de chats et de chiens adultes n'avaient pas modifié leur réussite au jeu. Ainsi, voir pendant un bref instant des images de bébés chats et de bébés chiens, a pour effet de mobiliser l'attention et d'augmenter le contrôle exercé sur les gestes pour une tâche qui n'a pas de relation directe avec les bébés chats et chiens, mais qui a pour but de soigner, de soulager la souffrance, de protéger. La tendresse que nous ressentons à la vue d'un bébé ne se traduit pas seulement par un changement de notre état émotionnel, elle rend aussi plus tendre, plus attentif, plus attentionné nos actions, nos gestes, nos mouvements. Mais cet effet est-il restreint à une modification de nos comportements à l'égard des autres, lorsqu'ils sont dans un état de vulnérabilité, ou cet effet pourrait-il être plus large encore, et se traduire par un changement plus profond, une autre manière globale de nous comporter, d'explorer notre environnement? C'est la question qu'a posée une équipe de chercheurs japonais de l'université d'Hiroshima. Ils ont publié leur étude il y a un mois et demi, à la fin du mois de septembre, dans la revue PLOS ONE. Le titre de leur article est « Le pouvoir du kawaii ». Le pouvoir exercé sur nous par la vue d'une image adorable, attendrissante, l'image d'un bébé. Les chercheurs ont réalisé 3 séries d'expériences auxquelles ils ont fait participer au total 132 personnes, 66 femmes et 66 hommes âgés de 18 à 22 ans. 48 personnes ont participé à la première expérience, qui visait à confirmer les résultats publiés 3 ans plus tôt par les chercheurs de l'Université de Virginie, tout en explorant un paramètre supplémentaire. Les personnes jouent aux jeux vidéo pour enfants, aux jeux du docteur, du chirurgien, qui consiste à soigner virtuellement un blessé. Puis les chercheurs leur présentent soit des photos de chatons ou de chiots, soit des photos de chats et de chiens adultes. Et comme dans l'étude précédente, les personnes qui ont vu des photos de chiots et de chatons réussissent beaucoup mieux la séance du jeu qui suit, ce qui n'est pas le cas des personnes qui ont vu des photos de chiens et de chats adultes. Mais les chercheurs japonais ont effectué une mesure supplémentaire que la précédente étude n'avait pas réalisée. La mesure de la durée du deuxième jeu après la vue des photos. Les personnes qui avaient vu des photos de petits chatons et de petits chiots avaient pris plus de temps à soigner leur passion virtuelle après avoir vu les photos qu'avant. Alors que les personnes qui avaient vu les photos de chiens et de chats adultes avaient pris le même temps. Ainsi, cette amélioration de leur performance de soignant s'accompagnait d'un ralentissement de leurs actes. Les personnes étaient plus attentives, plus attentionnées, plus lentes et plus efficaces. Est-ce que l'effet de la simple vue brève, d'image de bébé, d'image attendrissante, d'image kawaii, est-ce que cet effet est d'une manière générale de ralentir tous nos comportements? Ce qui est le cas par exemple lorsque nous parlons à un bébé et nous nous mettons soudain spontanément à parler plus lentement et en prononçant chaque mot plus lentement. Si tel est le cas, si tous nos comportements sont ralentis, nos gestes seront plus précautionneux lorsque nous nous occuperons du bébé, mais certains de nos comportements qui nécessitent une réponse rapide, comme par exemple pouvoir détecter dans l'environnement un danger qui menace le bébé, seraient eux aussi ralentis et donc moins efficaces. Mais est-ce le cas? C'est la deuxième question qu'ont posée les chercheurs japonais. 48 personnes qui n'avaient pas participé à la première expérience ont participé à cette deuxième expérience. Durant la première expérience, les chercheurs avaient demandé aux personnes de classer sur une échelle de 1 à 6 non seulement le caractère kawaii, mignon, attendrissant des images qu'ils leur avaient présentées, mais aussi leur caractère intéressant et leur caractère agréable, plaisant. Les personnes qui avaient vu les images de petits chiots et de petits chatons et les personnes qui avaient vu les images de chats et de chiens adultes avaient classé ces images comme aussi intéressantes et aussi plaisantes. La seule différence était le caractère mignon, attendrissant, enfantin. Il était plus élevé pour les images de chiots et de chatons que pour les images de chiens et de chats adultes. Dans la deuxième expérience, pour mieux distinguer l'effet kawaii, mignon, enfantin, attendrissant, d'un simple effet intéressant, agréable, plaisant, les chercheurs ont rajouté une série d'images, des images de plats de nourriture appétissants. Dans cette deuxième expérience, le comportement exploré n'était pas la capacité à réaliser des gestes avec une grande précision, mais la capacité à détecter visuellement, sans faire un geste, le nombre de fois où un chiffre particulier était présent dans un carré formé par 40 chiffres, de 0 à 9. Le chiffre à détecter est affiché à gauche du carré, par exemple 8. Et dans le carré, dont la première ligne est par exemple 7, 4, 4, 9, 6, 2, 2, 7, 1, puis en dessous encore 4 lignes de 10 chiffres chacune, dans le carré, il y a par exemple 2 fois le chiffre 8, et la bonne réponse est donc 2. Puis la personne voit un autre carré, avec un autre chiffre affiché à gauche du carré. Une première session a lieu, puis on présente aux personnes soit des photos de petits chiots et de petits chatons, soit des photos de chiens et de chats adultes, soit des photos de plats appétissants. Puis la deuxième session a lieu. Et les personnes qui ont vu les photos de petits chatons et de petits chiots réussissent mieux que lors de la première session, ce qui n'est pas le cas des autres personnes. Mais contrairement à la première expérience, ici, les personnes qui ont vu les photos de chatons et de chiots vont plus vite. Elles identifient plus vite le nombre de chiffres à découvrir dans les carrés. La vue des images kawaii, attendrissantes de bébés, a amélioré la capacité à détecter rapidement des détails très précis dans leur environnement. Les personnes sont moins distraites, plus concentrées. Elles attachent plus d'importance à la recherche visuelle dans laquelle elles sont engagées. Et ainsi, cette sensation induite par la vue d'un bébé, cet attendrissement, ce sourire et cette envie de protéger un tout petit ne s'accompagnent pas d'un ralentissement global des comportements. Les gestes protecteurs deviennent plus efficaces du fait qu'ils se font plus lents, plus précautionneux, plus focalisés, plus précis, mais l'attention visuelle, au contraire, devient plus efficace du fait qu'elle est à la fois plus rapide et plus précise. Comme dans l'expérience précédente, les photos d'animaux adultes ont été considérées comme aussi intéressantes et aussi plaisantes que les photos des bébés animaux, et les photos de plats appétissants ont été considérées comme aussi intéressantes et encore plus plaisantes et encore plus agréables que les photos d'animaux adultes ou de bébés animaux. Mais ce sont les photos de bébés animaux, celles qui avaient été considérées comme les plus kawaii, les plus attendrissantes, les plus mignonnes, ce sont ces photos et elles seules qui ont eu pour effet d'augmenter la rapidité et l'efficacité de l'attention visuelle. Mieux détecter un chiffre particulier dans un carré composé de 40 chiffres suggère une plus grande attention aux détails, aux dépens de la vision d'ensemble, une plus grande attention aux arbres qui composent une forêt qu'à l'aspect global de la forêt elle-même. Mais est-ce bien le cas? C'est la question qu'a explorée la troisième expérience réalisée par les chercheurs japonais. Ils ont présenté à 36 autres personnes, qui n'avaient pas participé aux deux expériences précédentes, de grandes lettres de l'alphabet, composées elles-mêmes d'une série d'autres lettres plus petites. Par exemple, un grand H majuscule, composé à partir d'une série de petits F majuscules, ou un grand L majuscule, composé à partir d'une série de petites T majuscules. Les grandes lettres, composées des petites, sont l'équivalent d'une forêt. Les petites lettres, qui composent la grande, sont l'équivalent des arbres dans une forêt. Il y a en tout 8 grandes lettres et 8 petites lettres qui peuvent composer chacune des grandes lettres selon toutes les combinaisons possibles. Chacune des grandes lettres, composées de petites lettres, s'affiche sur l'écran pendant un temps très court et est rapidement suivie par une autre. Et les chercheurs demandent aux personnes d'appuyer aussi vite que possible sur un bouton situé à gauche si elles voient un H et sur un bouton situé à droite si elles voient un T. Puis les chercheurs présentent aux personnes soit des photos de bébés chats ou de bébés chiens, soit des photos de chiens et de chats adultes, soit des photos classées comme émotionnellement neutres, des photos dont la vue n'induit pas d'émotion particulière. Les personnes qui ont vu des photos de bébés animaux reconnaissent mieux que les autres les petites lettres qui composent les grandes et moins bien les grandes lettres composées de petites. C'est-à-dire qu'elles reconnaissent mieux, par exemple, les petites lettres T quand elles font partie d'un grand H ou d'un grand F ou d'un grand L qu'elles ne reconnaissent une grande lettre T composée de petits H ou de petits F ou de petits L. Elles reconnaissent mieux et plus vite les arbres qui composent la forêt que la forêt elle-même. Et ainsi, le sentiment de tendresse et de joie et cette envie de protéger un tout petit exercent des effets profonds sur notre état d'esprit et sur nos comportements. Même quand il ne s'agit que de photos de bébés vues pendant un bref moment, et même quand ces bébés sont des bébés chats et chiens, nos gestes vont changer, devenir plus précis, plus attentionnés et plus lents. Alors que notre attention visuelle va devenir plus précise et plus rapide, et notre attention va se focaliser sur les détails qui nous semblent importants, plus que sur la configuration générale de notre environnement. Une forme d'état d'esprit et de comportement plus maternel, plus parental, va surgir en nous pour un temps. Un plus grand souci de l'autre, une forme particulière d'empathie qui fait émerger la sympathie et le sentiment de responsabilité, non comme un devoir, mais comme un désir, le désir d'aider, de protéger. Peut-être que lorsque nous regardons un dessin animé de Walt Disney comme Bambi, Dumbo, le Roi Lion, peut-être que lorsque nous regardons un documentaire comme Bébé de Thomas Balmès et Alain Chabat, qui nous montre des bébés durant leur première année dans différentes régions du monde. Peut-être que lorsque nous voyons près de nous un bébé ou de tout jeunes animaux et que nous nous attendrissons ou que nous nous en occupons. Peut-être qu'alors, pendant un temps au moins, nous devenons meilleurs, plus respectueux de tous ceux qui réclament notre attention, de tous ceux dont nous découvrons qu'ils sont les plus vulnérables. Plus respectueux de la part de vulnérabilité qui est en chacun de nous, de cette part essentielle en nous qui a besoin des autres, et que nous oublions si souvent, quand nous croyons que nous nous suffisons à nous-mêmes et que les autres se suffisent à eux-mêmes. Peut-être devenons-nous alors, soudain, capables de retrouver, de redécouvrir, de ressentir, en nous et dans les autres, le petit enfant que nous avons tous été et que nous demeurons en partie durant toute notre existence.
Come my love, come and shine with your light on me. Come and play with the chimes in the belfry. Come with me and hold me in your arms. Let me feel your tenderness and your warmth. When the rain is falling hard and the storm is far from over, my lady love, that's you. You give me warmth in the night. You take away my sadness. Oh, my lady darling, it's true. I'll give my world to you. Let me show you how. Let me show you now. I long to hear your voice 'neath the night forlorn, and to gaze for a while into your eyes reborn. And though my mind sometimes gets weak and cold, you remain like a song in my heart and soul. When the rain is falling hard and the storm is far from over, my lady love, that's you. You give me night. You take away my sadness. Oh, lady darling, it's true. I give my world to you. Let me show you how. Let me show you now.
France Inter, sur les épaules de Darwin.
À 34 ans, il me semble que je viens de naître. C'est une sensation de chaque jour. Elle est comique, si l'on veut, mais elle est bien vivante et si emplie de force que j'ai envie de la crier. Le monde commence aujourd'hui. C'est une réalité pour moi chaque fois que je n'ai pas peur. C'est une réalité pour tous les hommes. J'en viens parfois à me demander si la peur ne serait pas la cause principale, la seule cause de notre vieillissement. Je me sens jeune, très jeune. C'est la raison qui me pousse à écrire. d'autant que ma jeunesse est pleine de souvenirs. Et ça n'est pas contradictoire. Tous ces lieux où j'ai vécu, tous ces hommes surtout que j'ai aimés, n'appartiennent pas au passé. Ils n'habitent pas ce pays abstrait qu'on appelle autrefois. Ils sont en moi, dans mon esprit, dans mon présent. C'est sans doute la raison pour laquelle ils reviennent en foule au moment où je suis le plus jeune, le plus proche de chacun des instants de ma vie. C'est le début d'un livre splendide de Jacques Lucéran, « Le monde commence aujourd'hui ». C'est l'année 1959. Depuis un an, Lucéran s'est installé aux États-Unis, en Virginie, dans la vallée de Shenandoah, au milieu des forêts des montagnes Appalaches, où l'homme, dit-il, n'a pas eu encore le temps d'imprégner la terre de son bruit. Elle est belle, ma Virginie, parce qu'elle ne dit rien. Elle ne dit rien dans la langue des hommes. Toutes ces maisons d'hommes, toutes ces routes ont été posées là par hasard. On pourrait les décoller toutes, les transporter ailleurs. Montagnes et forêts ne s'en soucieraient guère. J'aime la Virginie à cause de cette nudité. Nudité, c'est-à-dire pauvreté. Que mes amis américains ne s'indignent pas, cette pauvreté, c'est leur richesse. Elle est riche, la maison au milieu du bois, juste au centre du tapis d'herbes et de feuilles, qui s'étend sans barrière et presque sans cadastre jusqu'à la maison prochaine et invisible, là-bas, de l'autre côté de la vallée sauvage. Mais sa richesse n'est pas dans son équipement électrique, ni dans l'automobile qui attend devant la porte. Elle est dans sa rencontre brusque avec la forêt, dans sa présence de toutes parts à l'espace. Jacques Lucéran est aveugle depuis 26 ans. Il a perdu la vue un peu avant l'âge de 8 ans. Durant la Seconde Guerre mondiale, à l'âge de 17 ans, il s'engage dans la résistance et crée un réseau. En 1943, il est arrêté et emprisonné à Fresnes. Et en 1944, à l'âge de 19 ans, il est déporté dans le camp de Buchenwald. Ici, je dois m'arrêter un instant, dit Lucéran. Ici, je dois m'arrêter un instant parce que j'ai prononcé le nom de Buchenwald. Je l'écrirai souvent. Mais ne vous attendez pas à un tableau des horreurs de la déportation. Ces horreurs ont été réelles. Elles ne sont pas bonnes à dire. Pour avoir le droit d'en parler, il faudrait être médecin. Et pas seulement médecin des corps. Je me contenterai donc simplement de l'indispensable. Cela se passait parmi les fantômes. Ce n'est pas une façon de parler, ils n'étaient plus exactement des hommes, mes camarades de captivité. Moi non plus, je n'étais pas un homme. Il y avait trop de terreur, de faim et de froid. Nous commencions des gestes sans jamais les finir, nous ouvrions la bouche, mais c'était pour articuler des moitiés de paroles. Nous avions l'air de fantômes, zigzagant du toit jusqu'au plancher de nos baraques. Des mimes, copiant tout raidis les mouvements de la vie. Ma mémoire de ce temps est une mémoire d'homme ivre. Elle confond, elle épaissit, elle disloque, elle fait danser toute chose. Et assez extraordinairement, quelques personnages surgissent, intacts. Il y aurait toujours cette neige dans tous les soleils, écrira Georges Semploun un demi-siècle plus tard dans l'écriture ou la vie. Il y aurait toujours cette mémoire, cette solitude, cette neige dans tous les soleils, cette fumée dans tous les printemps. Le 11 avril 1945, l'armée américaine libère le camp. Parmi les survivants, il y a Semploun et Lucéran. Lucéran reprend ses études, il devient enseignant. 15 ans plus tard, il est en Virginie. Il enseigne la littérature française au Hollins College. Et il publie « Le monde commence aujourd'hui ». Il me semble que je viens de naître. Tous ces lieux où j'ai vécu, tous ces hommes surtout que j'ai aimés n'appartiennent pas au passé. Ils n'habitent pas ce pays abstrait qu'on appelle autrefois, ils sont en moi, dans mon esprit, dans mon présent. C'est sans doute la raison pour laquelle ils reviennent en foule au moment où je suis le plus jeune, le plus proche de chacun des instants de ma vie. Des souvenirs amassés au hasard, à demi oubliés, à demi réinventés, comme tous les souvenirs. Ces êtres humains dans ma mémoire vivent depuis des années parfois. Ils ne m'ont jamais quitté. Et ce qu'ils racontent, quand je les tiens rassemblés dans la paix de mon esprit, comme dans une grande salle, n'a rien à voir avec le passé, le regret des temps meilleurs, les civilisations mortes, ni surtout avec la vieille Europe. Ce qu'il raconte, ce sont des histoires de vie et de confiance. Je n'y puis rien. Mes autres souvenirs sont morts. Ne comptez pas sur moi pour les ressusciter. Lucéran parle de sa cécité. Les yeux créent les couleurs, dit-il. Les oreilles produisent les sons, dira 10 ans plus tard la poétesse et romancière canadienne Margaret Atwood dans le journal de Susanna Maudy. Les oreilles produisent les sons, ce que j'ai entendu, je l'ai créé moi-même. Les mains produisent des objets. Le monde qui naît du toucher, cette tasse, ce village, était-il là avant mes doigts? Les yeux produisent de la lumière. Les yeux créent les couleurs, dit Lucéran. L'homme fait et défait les paysages. Laissez-moi vous dire ces choses. Elles sont trop peu connues et venant d'un aveugle, elles ont une petite chance de retenir votre attention. Les yeux font les couleurs. Bien sûr, pas les yeux physiques, ceux de l'ophtalmologie. Ces deux organes confus et fragiles ne sont après tout que des miroirs. Les deux miroirs brisés, les yeux continuent de vivre. Ceux dont je veux parler, les vrais yeux, travaillent en dedans de nous. Tant pis si le vocabulaire fait défaut, s'il est faible. Voir, c'est un acte fondamental de la vie, un acte indéchirable, indestructible, indépendant des outils physiques dont il se sert. Voir, c'est un mouvement que la vie fait en nous, avant les objets, avant toute détermination extérieure, avant les objets et après eux, si par accident les instruments matériels de la rencontre viennent à manquer. C'est au-dedans de vous que vous voyez. Si la lumière intérieure ne nous était pas donnée d'abord, et par conséquent les couleurs aussi, jamais nous ne pourrions admirer les couleurs du monde. Voilà ce que je sais après 25 ans de cécité. Mais qu'est-ce que voir pour Jacques Lucéran? Dans un autre livre bouleversant, Et la lumière fut. Il raconte comment à l'âge de 9 ans, il jouait du violoncelle. Il voulait devenir un musicien professionnel. Et quelques semaines après avoir perdu la vue, il commence à voir la musique, à voir les sons. Ils ont des formes et plus que tout, dit-il, des couleurs. Au concert, pour moi, dit Lucéran, l'orchestre était comme un peintre. Il me submergeait avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Si le violon jouait, j'étais soudain empli d'or et de feu, et d'un rouge si vif que je ne pouvais plus me rappeler l'avoir vu sur aucun objet. Quand c'était le tour du hautbois, un vert clair me traversait, si frais qu'il me semblait percevoir le souffle de la nuit. Et il voit avec une telle intensité les couleurs lorsqu'il entend les sons. Il est tellement submergé émotionnellement par la musique qu'il se sent incapable soudain de la maîtriser suffisamment pour devenir plus tard musicien professionnel. Lucéran voit la lumière qu'il y a dans les sons. Mais il voit aussi, mieux que d'autres, les émotions et les intentions de ceux qui l'entourent.
Ces fous qui se mettent à nu, qui sont à bout, qui n'en peuvent plus de voir des fous partout. On y prend goût, mais je me passerai bien de lui, j'avoue. Il est saoul, il fait des bleus, il mène à bout, il pique les yeux. Il me rend flou. c'est fou. Je me
Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
Je suis devenu aveugle par accident, dit Lucéran dans Le Monde commence aujourd'hui. Je suis devenu aveugle par accident, alors que je n'avais pas tout à fait 8 ans, complètement aveugle et définitivement. Au moins selon les définitions et le vocabulaire de ceux qui ne sont pas aveugles, car pour moi, il en allait tout autrement. Je voyais encore. L'opération ne se produisait plus par l'intermédiaire de mes yeux, cela est vrai, mais elle se produisait. Elle avait lieu au-dedans de moi, dans un espace intérieur qu'il est difficile de circonscrire, mais après tout, ni plus ni moins que l'espace extérieur. J'insiste. Toute chose qui venait à ma rencontre était aussitôt vue. Vue et non touchée ou entendue. Elle se dessinait, prenait forme et couleur sur un écran interne, et cela sans que je fisse rien pour déclencher le phénomène. Au reste, comment aurais-je fait quoi que ce fût, moi qui n'avais encore que 8 ans? J'ai constaté bien souvent, poursuit Lucéran, j'ai constaté bien souvent que la peur d'un homme, sa colère ou sa tristesse, me sont déjà visibles alors qu'elles n'ont pas encore paru au niveau de son corps. Je ne suis pas plus malin que les autres. Je n'ai rien à deviner. Je vois. Je vois dans les formes du corps un démembrement qui se met en route. Des morceaux entiers de chair brusquement reculent, s'affaissent ou vibrent de façon dissonante. Les couleurs elles-mêmes tournent au rouge, au brun rouge. Elles crient. Je me détourne. La colère a commencé visuellement, mais sur le visage, dans les gestes, tels que les yeux physiques les perçoivent, la sérénité règne encore. Tout dépend de l'attention. Jacques Lucéran perçoit les émotions et les intentions des autres. Il est en empathie. Il se met à la place des autres mieux que les autres, parce qu'il n'est pas gêné par ce qui capte l'attention de ceux qui ne sont pas aveugles, parce qu'il voit autrement, au-delà de ce que révèlent les yeux. Pendant la résistance, en raison de cette capacité, c'est lui qui interrogera les personnes qui veulent rejoindre son réseau, c'est lui qu'on chargera de démasquer les espions, les traîtres. Il voit ce que les autres ne voient pas. Mais, dit-il, ne me demandez pas par exemple de vous dire si vous êtes blonde ou brune, maigre ou ventripotent, ne me demandez pas de le deviner. Ne faites pas cela tout simplement parce que ces questions ne concernent pas la vue, mais les reflets seulement. Et les plus futiles. Je ne vous vois pas blonde ou brune, peignée ou les cheveux fous, levant le bras ou le baissant, je vous vois, ce qui est une autre affaire. Parfois, je distingue votre corps, je regarde vos yeux ou vos doigts. Mais c'est alors signe que vos doigts ou vos yeux, le pli de votre bouche ou l'impatience de vos jambes sont en train de parler pour vous, de participer à ce que vous dites, de vous exprimer enfin, ce qui n'est pas toujours le cas. Plus souvent, je vous vois, mais d'une manière très peu anatomique. Je ne vous détaille pas, je vous attrape. Je dirais aussi, volontiers, je vous reçois à l'instant où vous arrêtez la lumière que je tends vers vous. Vous faites une ombre. Cette ombre se diversifie presque immédiatement, se met en forme, se colore, mais selon d'autres rythmes que ceux des yeux. Si vous ne tenez pas en place, si ma conversation vous agace, votre ombre alors se disloque. Il en part des morceaux à droite, à gauche, en arrière. Si vous êtes attiré vers moi par l'amitié ou l'intérêt, cette ombre est toute proche. Elle tend à s'intégrer dans la mienne. Prenons l'exemple d'une femme, c'est plus clair. Madame X est assise à l'autre bout du salon. Je le sais, je l'entends. Je la vois même distinctement à l'extrémité de la pièce. Mais voici que la conversation aidant, Madame X souhaite faire des confidences et les faire à moi ce jour-là. Je la vois aussitôt s'approcher. Notez bien qu'elle est restée assise, très honorablement, dans un fauteuil là-bas à quelques mètres. Elle n'a pas bougé, et même souvent elle n'a rien dit. Mais je la vois qui s'approche. Il y a deux Madame X maintenant. Celle que les autres voient, et celle que je vois à mi-chemin de la fenêtre et de son fauteuil. Choisissons un cas différent. Monsieur Z est autoritaire. Il aime dominer, envelopper les gens dans le rayonnement de ses idées et de sa volonté. Il aime leur imposer son pouvoir. J'ai connu, bien sûr, de tels hommes. Eh bien, où croyez-vous que je les voyais? Dans quelle partie de l'espace, lorsqu'ils cherchaient à me convaincre, à m'entraîner dans leur sillage? Monsieur Z n'était pas de l'autre côté du grand bureau, ni debout à distance de respect, me laissant le champ libre. Monsieur Z était à plusieurs endroits à la fois, posté aux quatre coins, et les quatre Monsieur Z convergeaient vers moi. Il y en avait partout, comme un brouillard qui vous pénètre. Je n'avais plus qu'à fuir ou à passer au travers. J'assistais il y a quelques années à la conférence que donnait un ami, quand presque au milieu d'une phrase, un homme dans la salle non loin de moi, sur ma gauche, a jailli. Jailli exactement à la façon d'un ressort qui vous bondit en pleine figure. Cet homme voulait simplement porter la contradiction avec une brusquerie et une colère maniaque. De façon instantanée, dans l'éclair d'un regard, j'ai vu un écorché, un pantin rougeâtre fait d'une toile de nerf. Ce n'était pas la vue des yeux, mais c'était la vue en forme et en couleur. Et je ne suis pas prêt d'oublier l'apparition. Dans la perception d'un homme attentif, dit Lucéran, dans la perception d'un homme attentif, la réalité se livre. C'est toujours au-dedans de nous que la connaissance a lieu. La paix intérieure, c'est cela. Et c'est cela l'attention. C'est un état de communication universelle, un état de réunion. La vie intérieure, c'est cela. C'est savoir que la paix n'est pas dans ce monde, mais dans le regard de paix que nous portons sur le monde. Tout ce qui fait accepter la vie est bon, tout ce qui nous la fait refuser est médiocre et provisoire. Toute la vie nous est donnée avant que nous la vivions, mais il faut toute une vie, il faut peut-être plus, pour devenir conscient de ce don. Toute la vie nous est donnée chaque seconde. Le monde commence aujourd'hui. Rallumer à l'intensité de ce qui commence tout ce qui succède, dira Pascal Quignard. Retrouver l'aube, naître. Retrouver l'aube partout, 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 c'est une façon de vivre. Reconstituer la naissance dans tout automne, faire ressurgir l'éruption de la première fois, car il n'en est pas d'autre. Découvrir, ressentir, voir dans chacun de ceux qui nous entourent, ce qu'il y a de plus jeune, de plus neuf, de plus fragile, et qui demande attention, protection. Oh, s'éveiller chaque matin, dit Lucéran. Oh, s'éveiller chaque matin, et pourquoi pas chaque minute, et regarder le monde qui commence.
Oh,
Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Patrick Henry, au mixage Maxime Ingrand et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.
Merci Jean-Claude Amezen, c'était Sur les épaules de Darwin qui avait été diffusé pour la première fois le 21 juin 2014. Dès la semaine prochaine et pour la 10e saison, vous retrouverez une nouvelle série d'émissions inédites proposées par Jean-Claude Amezen.